Martin Monger, bonjour.
Bonjour.
On pouvait lire dans Le Devoir le 22 novembre dernier, dans un article signé par Isabelle Paré, que 1000 Québécois, qu'il y a 1000 Québécois qui sont en attente d'un organe. Et sur ce nombre, il y a seulement la moitié qui obtiendra une greffe cette année. Est-ce que l'initiative Je donne un rein.ca, c'est une façon également, parce qu'on connaît les impacts, là, il y a des gens qui perdent la vie faute d'avoir accès à un organe qui pourrait les sauver. Est-ce que cette initiative-là, c'est aussi une façon de mettre en place une façon de s'organiser pour être plus efficace et aller rejoindre un plus grand nombre de donneurs potentiels?
Ça fait partie d'un ensemble de mesures, effectivement, qu'on a proposées. Pour favoriser l'augmentation du nombre de greffes rénales au Québec. Parce que, comme vous l'avez si bien dit, il y a plus de 1000 personnes en attente d'un organe et il y a à peu près 78 % de ces personnes-là qui attendent un rein. Donc, on a proposé différentes mesures pour favoriser l'augmentation de la greffe rénale et c'est des mesures de tous ordres, que ce soit l'organisation du système de santé, que ce soit une meilleure connaissance du don vivant. Et c'est dans cette optique-là qu'on a lancé le site web Je donne un rein.ca pour que les personnes aient plus d'informations sur la possibilité de donner un rein, parce qu'on entend souvent de gens chez nous, des donneurs, des gens qui ont déjà donné un rein, de dire que je ne savais pas avant qu'on pouvait donner un rein, je l'ai appris par hasard. Donc, de là est venue cette initiative-là. Aussi pour appuyer le donneur dans sa démarche. Des fois, le donneur veut bien faire, il veut donner un rein à son proche, mais fait un peu d'embonpoint, fume ou des choses comme ça. Ben, on a voulu lui aussi procurer des ressources qui lui permettraient peut-être effectivement soit de réduire son poids, soit d'arrêter de fumer, des choses comme ça.
Martin, vous parlez de hasard, mais j'ai aussi l'impression que souvent, quand on pense à donner un rein de son vivant, c'est parce que quelqu'un dans notre entourage en a de besoin pour sa survie et qu'on a envie de contribuer, on a envie de préserver la vie d'un proche qu'on aime. Et il y a quand même besoin parfois d'un lien affectif entre donneur et receveur. C'est quelque chose que je ne savais pas, moi.
Bien, en général, effectivement, quand je parlais de hasard, c'est qu'ils ont appris la possibilité de donner un rein de son vivant. C'est ça qu'ils ont appris par hasard. Mais effectivement, dans la plupart des cas, il y a une relation entre le donneur et le receveur. C'est pas le fruit du hasard, comme vous le soulignez, effectivement. C'est souvent un proche. Et en général, effectivement, dans le cadre de l'évaluation et tout ça, on va s'assurer effectivement qu'il y a ce lien-là. Quoiqu'il y a des personnes, mais c'est plus des exceptions que la règle, il y a des personnes qui vont offrir de donner un rein ou qui ont même donné un rein alors qu'ils ne connaissaient pas un receveur potentiel. Je vous donne un exemple. Jusqu'en décembre 2011, il y avait au Canada, là, depuis l'existence du registre canadien sur le don croisé, il y a 32 donneurs qui ont donné un rein, mais qui connaissaient pas le receveur potentiel. Ils l'ont fait par un geste purement altruiste. Mais si vous voulez, ce n'est pas la majorité des donneurs. La très, très grande majorité des donneurs ont un lien soit familial, soit affectif.
Oui, que ce soit de l'amitié.
Avec le receveur.
Ouais. C'est quoi un don croisé?
Un don croisé, c'est, je donne un exemple, vous avez quelqu'un dans votre famille qui a une maladie rénale et qui a besoin d'une greffe. Vous vous offrez à lui donner un rein. Par ailleurs, on fait les tests et tout ça, et il y a malheureusement incompatibilité au niveau du groupe sanguin ou d'autres incompatibilités. À ce moment-là, on a créé à l'échelle canadienne un registre où vous et votre receveur, donc une paire, va s'inscrire dans ce registre-là. Et il y a peut-être ailleurs au pays une autre paire donneurs-receveurs qui est dans la même situation, mais dont le donneur pourrait être compatible avec votre proche et vous pouvez être compatible avec le receveur à l'autre bout du pays.
Ah.
Donc, c'est pour permettre ces croisements-là, pour favoriser plus le don vivant, effectivement, mm-hmm. et pour réduire les effets de l'incompatibilité qu'on a créé ce registre-là. Et ça offre de nouvelles voies là, pour des gens qui
sont prêts à donner, mais qui ne peuvent pas le faire faute de compatibilité. Tout à l'heure, Martin Munger, vous disiez, bon, si on fait de l'embonpoint, si on est un fumeur, peut-être que c'est moins évident de donner. Est-ce qu'on peut quand même donner? Est-ce qu'il y a des critères à respecter? Est-ce que tout le monde peut donner un rein?
Malheureusement, non. C'est pas tout le monde qui peut donner un rein. Ça, le premier critère, je vais vous le dire assez largement, il faut être en bonne santé.
Ouais.
Il faut être en bonne santé parce que, on peut vivre avec un seul rein. C'est le cas de tous les donneurs, mais il y a même des gens qui naissent avec un seul rein, ça existe. Mais c'est sûr que s'il nous reste un seul rein, bien, il faut que ce rein-là soit fonctionnel. Et il faut aussi que d'autres aspects de notre santé fassent en sorte que ce rein-là va rester pleinement fonctionnel toute sa vie. Et voyez-vous, en début d'émission, vous faisiez lien avec votre deuxième sujet.
L'hypertension artérielle.
Un des facteurs qui peut conduire à l'insuffisance rénale, un des deux facteurs premiers, c'est l'hypertension. L'hypertension, à la longue, peut avoir un effet sur les petits canaux sanguins qui irriguent le rein. Et donc, si ces petits canaux-là deviennent plus sclérosés, tout ça, ben le rein est affecté. Donc, c'est sûr que la personne qui fait de l'hypertension, qui n'est pas contrôlée, à ce moment-là, ce serait plus difficile. Je dis plus difficile parce que je suis pas médecin et je veux pas non plus dire que c'est absolument impossible. Je pense que l'idée là-dedans, c'est si on veut donner un rein à un proche, c'est d'aller manifester son intention et d'aller faire les examens qui sont nécessaires. Et les examens vont pouvoir indiquer si la personne peut donner un rein ou pas.
Est-ce que c'est un long processus une fois qu'on a pris la décision?
C'est un processus qui est quand même assez long parce qu'il y a quand même plusieurs examens à passer. Ça peut prendre au minimum quelques mois là. C'est pas quelque chose qui se fait entre la décision de vouloir donner un rein et l'intervention chirurgicale pour le faire. Ça se fait pas en dedans de deux semaines là. Il y a un processus d'évaluation psychologique, il y a un processus d'évaluation médicale. Tout ça prend du temps. Faut avoir les résultats de ces examens là et donc des rencontres aussi. Pour l'évaluation psychologique, c'est sûr que les professionnels de la santé vont vouloir s'assurer effectivement que les motifs pour donner un rein sont adéquats, que la personne est bien au courant de tout le processus et le fait aussi pour les bonnes raisons. Par exemple, on ne voudrait pas que quelqu'un donne un rein pour que le receveur lui soit redevable, par exemple, ou des choses comme ça. Donc, c'est des choses qu'on va que les professionnels de la santé vont évaluer adéquatement. Donc, tout ça prend un certain temps, effectivement.
Quelles sont les chances de réussite en ce qui a trait à l'opération?
Bien, les chances de réussite sont assez bonnes en général.
95%, je pense, hein?
Oui, sont très, très bonnes. C'est sûr que c'est une intervention chirurgicale qui nécessite une anesthésie et il y a toujours des risques reliés à une intervention chirurgicale. Je pense que c'est important de le mentionner. Par ailleurs, c'est une intervention chirurgicale. Le prélèvement du rein se fait par laparoscopie. La paroscopie, vous savez, on fait des petites incisions, on insère des caméras à l'intérieur et donc c'est une grande amélioration parce qu'auparavant c'était une seule incision mais qui était plus longue, donc ça nécessitait par exemple de soit de couper des muscles, des choses comme ça. Donc avant la convalescence pouvait être plus longue. Maintenant, par la paroscopie, bien écoutez, en général, il peut y avoir des exceptions à ça. La personne va sortir de l'hôpital de 2 à 5 jours après l'intervention. Par ailleurs, ça peut nécessiter quand même une convalescence d'1 à 2 mois là, après, là, avant le retour au travail, par exemple, ou des choses comme ça. Mais de 2 à 5 jours, la personne peut quitter l'hôpital normalement, là, sauf exception, bien entendu, ou complication, mais...
Est-ce qu'il y a soit via la Fondation canadienne du Rhin du Québec ou par d'autres organisations, de l'aide pour encadrer ce processus-là, c'est-à-dire, bon, il faut avertir l'employeur, donc comment on encadre la personne qui va donner un rein, ou encore, bon, le retour aux activités étape par étape. Est-ce qu'il y a un suivi par rapport à ça et un encadrement qui est offert?
Il y a deux types, je dirais, d'encadrement. Pour faciliter ça, je vais vous parler d'un premier et ensuite du deuxième. Donc, le premier, on a mis en place, suite à des demandes de la Fondation canadienne du Rhin, le gouvernement du Québec a mis en place un programme de remboursement des dépenses du donneur vivant. Déjà, on voulait s'assurer effectivement que ce geste-là d'une très, très grande générosité, au moins la personne qui le fait ne sera pas pénalisée financièrement. Bien entendu, on ne parle pas de payer un donneur pour un rein parce que c'est complètement illégal de vendre un rein ou quoi que ce soit. Mais on parle de rembourser des dépenses, que ce soit des dépenses de déplacement, des dépenses de stationnement, des repas, même en tout dernier lieu, un remboursement de dépenses de perte d'emploi. Je dis en tout dernier lieu parce que si la personne a déjà accès, par exemple, à une assurance collective de son employeur et qu'elle est couverte et tout ça, bien, c'est préférable qu'elle soit remboursée par son assurance collective. C'est déjà plus intéressant parce que le maximum là, de remboursement pour les dépenses, c'est 5 715 $. Là. C'est pas immense. Non. Ça, c'est la première mesure d'appui aux donneurs en 2010, ce programme-là a été implanté par le gouvernement du Québec suite à des demandes de la Fondation du Rhin. Les autres mesures d'appui, je vous dirais, c'est plus au niveau des professionnels de la santé, au niveau du centre de grève. Vous disiez tout à l'heure comment réintégrer l'emploi, est-ce qu'il y a des choses à faire attention. Ben ça, c'est des choses que les professionnels médicaux vont communiquer aux patients. Le donneur va revenir et il va avoir des examens, puis on va lui confirmer là qu'il est en bonne santé et qu'il peut reprendre le travail, ces choses-là. Donc, ce genre de mesures-là, c'est des choses, effectivement, que c'est le service de grève du centre hospitalier qui va encadrer le donneur à ce niveau-là. Par la suite, à plus long terme, les donneurs bénéficient d'un suivi annuel. Là, c'est sûr qu'immédiatement, après le don, il y a des suivis plus réguliers. Puis à plus long terme, ce qui est intéressant, c'est que le donneur va bénéficier d'un suivi annuel pour s'assurer effectivement que ses reins sont en bonne santé. Son rein,
oui. Dans ce cas-ci, c'est au singulier.
Son rein est en bonne santé et qu'il le préserve le plus longtemps possible, oui. Effectivement. Là. Donc,
on parlait, Martin, qu'il est possible de vivre avec un seul rein, mais est-ce que ça change quelque chose pour le donneur dans son quotidien? Est-ce que ça change des choses?
Non? Ça ne change rien. En fait, on a... on bénéficie, en fait, de chaque être humain, sauf exception, a 2 reins. Et avec 2 reins, on a plus que la capacité dont on a besoin, de la capacité de filtration et tout ça. Donc, avec un rein, on peut très bien vivre. Et les gens, on connaît quand même beaucoup de donneurs à la Fondation. Puis ces gens-là nous disent. Et par ailleurs, j'invite les gens à aller voir le site jedonnerein.ca. Oui. Il y a des témoignages de donneurs sur ce site-là et donc ça peut répondre aussi à des questions qu'ils peuvent avoir.
Mais ça demeure tout de même un geste altruisme, un grand geste, un beau geste. Et bien sûr, on n'a pas parlé aujourd'hui parce que ce n'était pas l'angle de ma discussion, de ce que je voulais aborder avec vous, Martin Mongeard, de toutes les retombées positives pour le receveur. Mais on peut quand même en glisser un mot parce que vous en rencontrez, vous aussi, du côté de la Fondation. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces gens-là?
Bien, ça me fait plaisir d'en glisser un mot, effectivement, parce que oui, c'est un geste, c'est une très, très grande générosité, je dirais, pour lequel il y a peu de comparables dans une vie.
Ouais.
Et oui, ben la première retombée positive, c'est souvent que le proche, la personne qu'on aime, va beaucoup mieux parce que le changement, en général, est radical lorsque la personne est greffée. Donc, si c'est un conjoint, un de nos enfants, nos parents, ben écoutez, c'est déjà une première retombée de voir que la vie du receveur a changé du tout au tout. C'est la première retombée positive. Souvent aussi, les gens ont une très grande satisfaction d'avoir posé un geste d'une telle générosité. Donc ça aussi, c'est une retombée positive là pour la personne, le fait d'avoir posé un geste d'une grande générosité et donc le fait aussi d'avoir contribué à changer d'une manière radicale, à améliorer d'une manière radicale la vie d'une personne. Puis souvent, c'est une personne qu'on aime, un proche. Donc, c'est, je dirais, incomparable comme sensation.
www.jedonnerein.ca. Martin Mongeard, je rappelle, vous êtes le directeur général de la Fondation canadienne du Rein, Division Québec. Ça a été un plaisir de vous parler et d'en apprendre davantage sur le don du rein. On n'en parle pas souvent, on n'en parle peut-être pas assez, mais avec votre site qui est très, très bien fait et qui vulgarise bien l'information, je pense que ça aura des suites.
Bien, le plaisir est réciproque. Je vous remercie beaucoup de nous avoir contactés.
Au revoir.
Bonjour.